Bien, aujourd'hui nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, vous savez certainement que les évangiles nous présentent la vie de Jésus-Christ, son ministère, et nous le présentent sous des perspectives différentes, soulignant des aspects différents aussi de la personne de Christ. Hein, on voit que l'évangile de Matthieu, par exemple, se consacre à nous montrer le Christ roi, hein, le Messie roi attendu par le peuple juif. Luc nous présente l'homme parfait, hein, qui est Jésus. Jean, lui, souligne la divinité de Jésus-Christ. Et Marc, qui est très semblablement le plus ancien des évangiles, eh bien, lui nous dépeint Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui est venu pour servir et pour donner sa vie. Et donc dans l'évangile de Marc, ce matin, je vous invite à trouver le chapitre 6 de l'évangile de Marc, et on va voir plusieurs choses. Parce que en plus de voir dans l'évangile de Marc le Fils de Dieu qui est venu pour servir et donner sa vie, dans cet évangile, on voit peut-être plus souvent que dans les autres les faillites spirituelles des disciples. Et ces faillites, hein, dans leur compréhension de l'enseignement de Christ, dans l'application de l'enseignement de Christ. Et dans ce chapitre 6 de l'évangile de Marc, eh bien, on va retrouver cela. Et quand je relisais ce passage récemment, il y a ces mots qui ont retenu mon attention. Déjà, nous trouvons, je vous invite à regarder déjà le verset 51 et 52, hein, Marc chapitre 6, versets 51 et 52. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Et ce verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et donc ça fait référence à ce qui s'est produit un peu plus tôt dans ce chapitre 6, à partir du verset 33, où nous avons ce premier miracle de la multiplication des pains, hein, pour une foule de 5000 personnes. Et de voir ce contraste entre les disciples qui avaient ce cœur endurci, et puis de voir le Seigneur Jésus qui, au verset 34, fut ému de compassion devant cette foule. Et cela nous amène à justement considérer ces deux choses. Un cœur endurci ou un cœur ému de compassion pour les personnes autour de nous. Quel genre de cœur avons-nous? Ces derniers mots ici de cœur endurci, oui, c'est un contraste saisissant entre bien ce regard que Jésus portait, un regard qui... Ça venait du cœur, c'était ce que lui ressentait pour cette foule, hein, qu'il était ému de compassion, hein, devant cette foule sans berger. Et ce matin, oui, je vous invite à considérer l'état de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver, même pour des chrétiens, d'avoir un cœur endurci. Tout en sachant ce que le Seigneur nous demande de faire, nous demande d'être, il est malheureusement possible pour des chrétiens d'avoir un cœur endurci. Alors ce matin, est-ce que vous pouvez affirmer sans aucun doute que vous avez un cœur qui est ému de compassion ou un cœur de pierre, un cœur endurci? Donc pour bien comprendre un peu tout ce qui se passe, parce que tout est un peu lié ici, hein, dans ce chapitre 6, hein, il faut prendre les choses dans leur contexte. Par rapport au propos de Christ, au verset 52, hein, ce que Marc a noté par rapport aux disciples, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Hein, dans les premiers versets du chapitre 6, on voit le Seigneur avec ses disciples qui sont dans la ville de Jésus, à Nazareth. Le Seigneur va enseigner dans la synagogue. Les auditeurs qui sont là à entendre Jésus prêcher et enseigner, ils sont aussi étonnés. Ils sont également surpris et ils ne comprennent pas. Et le verset 3 nous dit même que Jésus était pour eux une occasion de chute. Ça amène Jésus ensuite a proclamé cette phrase qui est devenue une expression assez populaire, même en français, hein, nul n'est prophète en son pays. Hein, on a ce verset 4 où il dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Une chose intéressante par rapport à ces moments où Jésus a été étonné de quelqu'un, c'était par rapport à la foi. Hein, la foi de cet officier romain, et il était étonné de voir une telle foi. Et puis ici, étonné de l'incrédulité de la ville dans laquelle il a grandi. Notez donc cette corrélation, oui, entre la foi et aussi la possibilité que Dieu agisse. Hein, on voit que il nous est dit ici, il n'a pas pu faire de miracle, si ce n'est bon, imposer les mains, guérir des malades. Il aurait pu accomplir des choses bien plus grandes et plus merveilleuses que ça, même si elles le sont déjà. Mais à cause de cette incrédulité, Dieu n'a pas agi. Ensuite, on a eh bien ce triste événement. Hein, où Jean-Baptiste va être exécuté. J'oublie avant cela que le Seigneur envoie ses disciples hein, en mission pour prêcher, hein, pour guérir. Et ensuite, au verset 30, ils reviennent et ils racontent au Seigneur tout ce qu'ils ont pu accomplir, tout ce qu'ils ont pu faire. Et verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et là, donc, on arrive à ce verset 33 de ce miracle de la multiplication de nourriture pour cette foule de 5000 personnes. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Alors oui, nous avons ici un récit extraordinaire de ce que Christ a pu accomplir pour cette foule qui l'avait suivi, lui et ses disciples. Mais ce que nous voyons donc en ce verset 52, où il est question de ce cœur endurci qu'avaient les disciples et qui n'avaient pas compris le miracle que Christ avait accompli. Et il y a ce lien qui est établi entre le cœur endurci et cet événement. Et oui, donc nous devons veiller à garder un cœur qui soit ému, un cœur de compassion et non endurci. Pourquoi? Bah, déjà, relevons les dangers de ce que un cœur endurci provoque dans la vie d'un chrétien. Déjà, bon, on sait que quand la Bible parle du cœur, elle parle de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, n'est-ce pas? La Bible considère le cœur comme le centre un peu de la personnalité humaine, hein, de ce qui, c'est de là que vont venir nos pensées, c'est de là que vont venir aussi les décisions, c'est-à-dire notre cœur va influencer notre vie. Et donc, ce qui nourrit notre cœur, c'est ce qui va influencer notre vie. Et donc le cœur, même celui des chrétiens les plus fidèles, peut malheureusement s'endurcir comme ça a été le cas ici pour les disciples. Un cœur endurci va se manifester notamment par de l'indifférence. D'abord, de l'indifférence par rapport à Dieu, par rapport à qui il est, par rapport à sa puissance, par rapport à sa volonté. Notez que cet endurcissement les avait même empêchés de comprendre la valeur même et la signification même du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et cet endurcissement affecte notre capacité à comprendre les choses spirituelles. Bien souvent, les disciples, et je vais faire une petite parenthèse ici, parce que le mot disciple, hein, le grec mathetes, c'est désigne quelqu'un qui apprend. D'accord? Et n'oublions pas ça. Hein, avant d'être là à critiquer les disciples et pointer du doigt, ce sont des personnes qui sont en train d'apprendre, d'être formées par le Seigneur. Et donc, ici, hein, ils sont tellement endurcis que leur capacité de comprendre les choses spirituelles, et comme je dis, on voit ça assez fréquemment où ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas les paraboles. Ils demandaient au Seigneur de leur expliquer. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et ils avaient besoin que le Seigneur les éclaircisse là-dessus. L'endurcissement, hein, nous rend même incapables de voir, hein, la volonté de Dieu de manière claire et précise. Parfois même de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Bien souvent, des chrétiens, à cause de l'endurcissement qu'ils peuvent avoir dans leur cœur, négligent de voir la grâce de Dieu dans leur vie. Négligent de voir la grâce de Dieu même dans les petites choses. Négligent de remercier le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir donné des capacités physiques, des capacités intellectuelles. Merci de m'avoir aidé à étudier, obtenir un diplôme, d'avoir obtenu un travail, etc. Ça, c'est de reconnaître la main de Dieu qui agit dans notre vie, là où notre orgueil nous dit « Non, ça, c'est tout toi. » Et l'endurcissement finit donc par empêcher la croissance spirituelle dont on a déjà parlé. Ça fait stagner les chrétiens. Parfois même reculer les chrétiens dans leur cheminement spirituel. Et donc c'est un danger. C'est un danger qui est réel et qui guette chaque chrétien. Puis l'endurcissement, c'est aussi vis-à-vis de notre prochain. Notons que l'endurcissement empêche le chrétien de répondre aux besoins réels et concrets, tant physiques que spirituels, lorsqu'il a le cœur endurci. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette parabole que vous connaissez tous, hein, du bon samaritain. De voir ceux qui étaient supposés appliquer la loi, hein, au plus haut degré, hein, le sacrificateur, le lévite, etc. Ils passent à côté de « tu aimeras ton prochain ». N'est-ce pas? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait aussi que des chrétiens qui peuvent avoir une grande connaissance de la parole de Dieu et qui vont dire « c'est comme ça qu'il faut faire, il faut vivre comme ça et vivre ces choses-là, etc. » Comment se fait-il qu'ils aient un cœur endurci en négligeant, eh bien, le deuxième commandement le plus important pour l'être humain, après « tu aimeras l'Éternel ton Dieu », c'est « tu aimeras ton prochain ». Comment ça se fait qu'on arrive à avoir ce cœur endurci? Dans tous les cas, on comprend que ce cœur endurci va affecter immanquablement notre relation avec Dieu, notre capacité de le servir correctement et affecter même nos relations avec les autres, avec les frères et sœurs en Christ. Et donc un cœur peut s'endurcir même plusieurs fois au cours d'une vie. Ça peut arriver. Parce que ici, même après avoir été témoin du miracle de cette multiplication des pains et des poissons pour une foule de 5000 dans ce chapitre 6, eh bien, deux chapitres plus loin, eh bien, le Seigneur va refaire quasiment le même miracle pour une foule de 4000 personnes. Et bizarrement, on a cette impression en lisant ce passage que les disciples avaient déjà tout oublié de ce que le Seigneur avait déjà fait. Regardez au chapitre 8. Ils sont là face à cette foule nombreuse. Et encore une fois, verset 2, Jésus, je suis ému de compassion pour cette foule. Verset 4, Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu oublier aussi rapidement ce que Christ avait déjà fait quelque temps auparavant? Comment est-ce qu'ils ont pu même oublier que le Seigneur Jésus, eh bien, est celui qui est au contrôle de toutes choses, qu'il a tout pouvoir, toute autorité, au point de prendre des pains, des poissons, de multiplier cela et de nourrir une foule de 5000 personnes, d'ensuite même d'être au milieu de cette tempête, de marcher sur les eaux et d'ordonner à la tempête de se calmer, et la tempête s'arrête et l'eau devient calme. L'autorité de Christ. Ou même à ce moment-là où, oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Comment, après avoir vu et connu ces choses-là, ils en reviennent encore une fois à « Mais comment est-ce que ça va pouvoir être possible ?» Et un peu plus loin même, dans ce même chapitre 8, on voit le Seigneur Jésus qui va même faire des reproches à ses disciples. Vous regardez à partir du verset 13, il monte dans une barque, il passe de l'autre bord. Et verset 14, les disciples avaient oublié de prendre du pain. Ils avaient oublié de prendre du pain pour eux. Et au verset 15, Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Pourquoi ? Ils venaient juste de reprendre les pharisiens, le verset 10 à 12. Et les disciples n'avaient pas compris de ce dont Jésus parlait là. Ils pensaient que Jésus leur faisait des reproches, « Vous avez encore oublié d'acheter du pain. » Non, c'est pas ça que le Seigneur reprochait. Il reprochait quelque part leur aveuglement, leur incompréhension par rapport à ce qu'il venait d'enseigner et de la manière dont il venait de parler aux pharisiens. Et lisez bien ce que le Seigneur Jésus dit par la suite. Verset 17. « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. » Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et elle leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ces disciples qui ont été les témoins de choses aussi extraordinaires que la multiplication de pain, de poissons, aussi extraordinaires que Jésus montrant son autorité sur la nature, sur cette tempête au milieu du lac, comment est-ce que ça a pu être possible que les disciples agissent ainsi? Je pense que vous le savez déjà, on l'a déjà souligné plusieurs fois, parce que même dans ce premier miracle, le fait qu'il y ait 12 paniers qui restent. Déjà là, encore une fois, je ne veux pas me mettre à la place des disciples, parce que je ne sais pas si moi j'aurais fait mieux qu'eux, n'est-ce pas? Mais face à la puissance de Christ, de ce Dieu qui pourvoit, de ce Dieu qui a une capacité si extraordinaire que de prendre de la nourriture qui suffirait à quelques hommes et de nourrir une foule entière, et qu'il y ait ces 12 paniers qui restent, 12 comme ces 12 disciples. Nous, on regarde ça et puis on comprend, parce que voilà, on a été enseigné, on a lu des commentaires bibliques et on comprend les choses, etc. Mais est-ce que nous aurions fait pareil lorsque Dieu nous montre dans notre vie combien il a agi pour nous? Et il nous met l'évidence même, et il nous met ce rappel pour nous que, voyez ce que je suis capable de faire. Et plus tard, avec ce miracle où il a nourri cette autre foule, et il reste 7 paniers. Encore une fois, 7 pains, 7 paniers. Jésus cherchait constamment à enseigner ses disciples, peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, il prenait les situations pour enseigner ses disciples. Et quand eux ne voyaient pas, lorsqu'ils étaient aveugles, lorsqu'ils entendaient mais ne comprenaient pas, lorsqu'ils voyaient mais finalement il n'y avait pas de processus, on va dire, spirituel de compréhension de ce que Jésus venait d'accomplir, ben on voit le Seigneur quand même pointer. Combien de paniers est-ce qu'il restait? 12. Et là, combien il en restait? 7. Alors oui, Marc souligne très bien cette quantité hein, de suffisant de nourriture qu'il y a eu et comment cette foule a été rassasiée. Il nous est même rapporté dans différents commentaires que dans ce deuxième miracle, les paniers qui étaient utilisés étaient des paniers énormes, hein, qui avaient la capacité où on pouvait même mettre une personne à l'intérieur. Vous imaginez ça? Imaginez un peu un panier de mataille avec tout ce reste de nourriture. Déjà hier, avec les hommes, on a toujours un bon petit déjeuner ensemble, un bon brunch. Il y a toujours des restes. Il y a toujours des restes. Et on se les répartit. Hein, tiens, tu veux encore ça, toi? Allez, vas-y, prends ça. Et puis on se les répartit. Mais imaginons cette situation de voir Christ accomplir ce miracle et d'aller même au-delà du besoin en pourvoyant même des restes. Ça, c'est la force et la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le cœur qu'il a pour ses enfants, de vouloir, oui, les enseigner, mais de pourvoir à tous leurs besoins. Les besoins physiques, oui, mais surtout les besoins spirituels. Mais ici, dans ce chapitre 8, lorsque Jésus les interroge sur la dureté de leur cœur, il nous donne déjà des explications, des indices sur la deuxième chose à noter ici, les raisons d'un cœur endurci. Cette incapacité de voir Dieu agir lorsqu'il a agi. L'incapacité de comprendre les choses spirituelles, l'incapacité d'entendre et même se rappeler des œuvres de Dieu dont ils ont été témoins, ou de la manière dont Dieu a pourvu, dont Dieu les a même employés eux. Parce que, au début du chapitre, ils ont été envoyés par le Seigneur pour prêcher la repentance. Et ils reviennent. Seigneur, on a chassé des démons! Chose extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne peux qu'essayer de m'imaginer un peu l'enthousiasme que ces disciples ont pu avoir de revenir vers le maître et de dire, hé, on a pu faire ça, et puis on a prêché là, et puis là, il y a des gens qui ont dit, oui, Seigneur, sauve-moi, et puis là, il y a des gens qui ont été guéris, et cet enthousiasme que nous-mêmes, nous pouvons avoir lorsque nous voyons Dieu à l'œuvre dans l'Église, dans notre famille, dans notre vie, et qu'on a pu avoir part à cela. La joie que on ressent même en tant que serviteur de Dieu, ou même, je prends l'exemple du camp, hein, où on a des pasteurs, on a des gens d'église, des membres d'église qui vont travailler, œuvrer en tant que animateurs, ou dans la cuisine, ou dans le nettoyage et choses comme ça. Et leur témoignage de fin de séjour, de dire « Merci Seigneur de ce que j'ai pu participer à cela. » Même si j'étais dans la buanderie, de voir des enfants venir au Seigneur, de voir des ados prendre des décisions. Cet enthousiasme quand Dieu nous implique dans son œuvre et de voir les fruits, de voir les résultats. Et quelque part, malheureusement, rapidement après, un endurcissement du cœur. Pourquoi? Parfois, il est vrai, cet endurcissement peut s'expliquer par un déséquilibre entre l'œuvre que nous apportons pour le Seigneur et le repos. Mais il n'y a pas que ça. Ah, vous avez noté avec moi quand même que le Seigneur, il voit que ses disciples sont fatigués. Ils n'ont même pas eu encore le temps de manger. Déjà qu'il y a des gens qui passent, qui viennent, etc. On peut imaginer que, bon, voilà, ils aimeraient pouvoir se retrouver déjà, passer un peu de temps ensemble, etc. Mais ils sont là, entourés de gens constamment. Je peux vous dire que moi-même, en tant que fils de pasteur, ça arrivait souvent ce genre de situation-là. C'est arrivé souvent ce genre de situation où, on le sait, hein, la famille du pasteur, c'est toujours la dernière à partir. Parce que le pasteur, il doit discuter avec les gens, etc. Et puis moi, je me rappelle, étant enfant, d'attendre et d'avoir faim, d'attendre et d'avoir faim. Et je fais moi-même subir les mêmes choses à mes enfants. Et quelque part, j'ai cette même image, ce même ressenti, en relisant un peu les disciples qui sont là et qui, bon, le Seigneur dit, allez, on va sortir d'ici. Hein, vous avez même besoin de vous reposer un peu. On va aller à l'écart, venez avec moi. Hein, et la foule les suit. Mais voilà, il y a une différence d'attitude entre celle du Seigneur et celle des disciples. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a vu le besoin spirituel de ces gens. Oui, nous, on retient la multiplication des pains, etc. Waouh, c'est extraordinaire. Mais la raison pour laquelle Jésus est ému de compassion, c'est parce qu'il y a là des gens qui ont soif, soif spirituellement. Des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et qui veulent entendre la parole de Dieu. Et Jésus les voit comme cette foule qui est comme des brebis sans berger, errants, perdus, personne pour prendre soin d'eux. Et Jésus va enseigner et enseigner et enseigner et enseigner. Et je pense que lui, ses prédications ont duré un peu plus que 50 minutes, comme j'ai l'habitude de le faire. À un moment donné, les disciples, Seigneur, il faut les renvoyer, il est tard. Ah oui, on peut se poser la question, est-ce qu'ils pensaient vraiment à cette foule ou est-ce qu'ils pensaient à eux-mêmes, connaissant leur situation, de eux-mêmes d'avoir besoin de repos? Mais voilà. Oui, même si le repos physique, il est nécessaire et que c'est un besoin réel, il y a des besoins qui sont élémentaires et il y a des besoins qui sont plus importants que d'autres. La préoccupation pour le bien-être de ses disciples est évidente. Ici, dans le récit qui nous est donné dans l'évangile de Marc par rapport à cet événement, mais voilà, Jésus va utiliser encore une fois cette situation-là pour enseigner ses disciples. Et vous, allez-y, allez les nourrir. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Quelque part, je me demande s'il n'avait pas en tête, oui, vous avez chassé des démons, vous avez guéri, etc. Maintenant, montrez-moi si vous pouvez nourrir cette foule. Et là encore, les disciples, c'est comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir payer de la nourriture pour une foule pareille? Hein, la somme dont ils parlent ici, hein, ça représente presque 6 mois de salaire. On imagine déjà très bien que si vous avez la possibilité d'aller quelquefois au restaurant ou dans un fast-food, c'est cher! C'est cher! Alors, imaginez une foule. Une foule aussi grande que celle-ci. Alors oui, pour les disciples, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Oui, il y a un ressourcement physique qui est nécessaire, il y a un ressourcement spirituel qui est nécessaire. D'ailleurs, on voit Christ faire exactement cela. Hein, une fois qu'il a renvoyé la foule, etc., qu'il envoie ses disciples, allez, prenez la barque, allez de l'autre bord, hein, et il va prendre le temps de prier sur la montagne. Il va prendre le temps avec le Père, ce ressourcement spirituel dont nous avons besoin. Et peut-être que la clé, elle est là aussi. C'est vrai qu'on peut vite être accaparé par plein de choses dans notre vie, être actif dans plein de domaines, dans le service du Seigneur, qu'on va négliger peut-être du repos pour nous. Et parfois même, on fait les choses tellement mécaniquement, etc., par habitude, parce qu'on s'est structuré ainsi, qu'on oublie de voir les besoins spirituels, qu'on oublie d'avoir un cœur ému de compassion. Et outre cet endurcissement de cœur, eh bien, il y a un autre danger qui peut se produire lorsque, oui, effectivement, nous manquons de repos. C'est ce qu'on voit avec le prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est découragé. Élie devant ce qu'il y a en face de lui. Il vient d'accomplir des choses extraordinaires et on le voit passer par un moment presque de dépression, hein, on peut parler de ça. Et le remède que l'Éternel a pour son serviteur, c'est un repos physique. Mais il y a un ressourcement spirituel qui est accompagné avec cela. Mais voilà, le fait de ne plus se confier en l'Éternel, hein, comme je pense à ce verset dans Ésaïe, hein, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, hein, ils prennent leur vol comme les aigles. Le fait de ne plus se confier en l'Éternel et d'accomplir les choses par nous-mêmes, par nos propres capacités, de ne plus regarder à la grâce de Dieu en nous, de nous avoir rendu capables d'exercer tel ministère, de pouvoir exhorter, encourager, d'évangéliser, etc., d'enseigner, et de voir ça à travers que ben, c'est moi qui accomplis ces choses, ben, c'est là où le risque d'endurcissement peut se produire. parce que nous négligeons de voir la grâce de Dieu. Nous oublions les bénédictions qu'il y a eu dans notre vie. Et donc, oui, comme les disciples, eh bien, on peut avoir un cœur qui s'endurcit. Un cœur qui va finir par manquer de foi. Un cœur qui va oublier ce que Dieu a déjà accompli. Et donc là, oui, le Seigneur va prendre ce moment pour les enseigner. Et ça, c'est toujours ce qui est remarquable. C'est que Dieu veut constamment nous enseigner, constamment nous amener à être plus grand, plus haut que ce que nous sommes à ce moment-là. Et donc Jésus, oui, tente de réorienter leur perspective. Au lieu de constater ce qu'ils n'avaient pas, il veut qu'ils considèrent ce qu'ils avaient déjà. Ils avaient déjà quelque chose. Mais ils négligeaient de voir ce que Dieu était capable de faire à travers ce peu de choses. Les disciples, comme je l'ai dit, ont déjà pu voir tant de miracles. Pourtant, ils sont surpris, ils sont étonnés. Lorsque, juste après cet événement, ils sont dans cette tempête et ils voient le Seigneur Jésus marcher sur l'eau. Ils voient le Seigneur Jésus ordonner à la tempête de se calmer. La tempête se calme. Ils sont étonnés, ils sont surpris. Et si vous regardez bien, juste avant cet événement-là, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'une fois que Jésus y renvoie la foule, etc., il obligea les disciples à monter dans la barque. C'était voulu. C'était voulu que les disciples passent par ce moment de tempête dans leur vie pour qu'ils puissent encore de nouveau voir et essayer de comprendre qui est Christ et la puissance qu'il a. Les cœurs, c'est vrai, peuvent s'endurcir lorsqu'il y a des difficultés et des épreuves et qu'on néglige de s'appuyer sur Dieu et qu'on préfère blâmer Dieu. Oui, le cœur va s'endurcir. Mais le Seigneur va employer ces choses pour nous enseigner, nous amener à une meilleure compréhension de qui il est et de ce qu'il veut pour nous. Mais la raison la plus grave d'un endurcissement du cœur, ça en revient à peut-être le péché le plus grand que l'on a, de celui de quel tous les autres découlent, l'orgueil. L'orgueil endurcit nos cœurs, nous rend aveugles aux besoins des autres, nous rend aveugles quant au besoin que nous avons de nous ressourcer en Christ, de nous puiser notre force en lui, parce que l'orgueil, c'est de croire que nous sommes suffisants à nous-mêmes. Et lorsque l'on commence à penser comme ça, le cœur s'endurcit. Dans le livre d'Abdias, les versets 3 et 4, nous lisons « L'orgueil de ton cœur t'a égaré ». Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur des hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. L'orgueil que l'on peut avoir nous égare, nous endurcit. Mais Dieu ne va pas laisser ça. Il ne veut pas de ça dans notre vie. L'orgueil et l'arrogance étaient certes à l'origine de l'endurcissement de beaucoup d'hommes dans les Écritures. On va penser à Pharaon, par exemple. Malgré les grandes preuves de la puissance de Dieu, avec les plaies que l'Éternel fait abattre sur le pays d'Égypte, le Pharaon continue de s'endurcir. Pourquoi? Son orgueil. Lorsque Nebuchadnezzar devint arrogant, orgueilleux, son cœur a été endurci et il a fini par perdre son règne, être dépouillé de sa gloire. Donc pour nous, lorsque nous sommes tentés d'agir selon notre volonté, d'agir selon notre propre puissance, ou lorsque nous négligeons de Dieu, c'est toi qui es tout puissant, tu as la capacité d'agir, nous te demandons d'agir. Et de plutôt se lamenter, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme les disciples ici. Eh bien, cet orgueil qui est présent, bien Dieu va nous mettre face à nos propres incapacités pour que nous comprenions de nouveau notre besoin de lui. Dieu a placé ses disciples au milieu de ce lac et de cette tempête pour qu'ils comprennent. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de comprendre qui il est. Alors oui, on peut regarder à ce récit et à se demander finalement, oui, on voit ce cœur endurci, on voit ces disciples qui, oui, ils ont pu accomplir des choses, mais ils ont négligé de voir la puissance de Dieu, ils ont négligé de voir la provision de Dieu, de se ressourcer en lui physiquement, spirituellement, et qu'il y a ce cœur endurci, mais qu'est-ce qu'il y a comme remède à cela? Comment est-ce qu'on peut changer ce cœur endurci, ce cœur de pierre? Il y a quand même certains fondamentaux dans les Écritures qu'on ne peut pas négliger. Je crois que la première chose pour nous, c'est de faire le point, de demander comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Il faut prendre conscience de l'impact de ce que l'endurcissement, de ce que l'orgueil, de ce que l'indifférence provoque dans notre vie. Que nous ayons ce même désir, ce même appel envers Dieu de dire « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi. » C'est-à-dire que montre-moi dans ma vie ce qui ne va pas et pourquoi j'en suis arrivé à ce point-là. Regarde s'il y a en moi une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quand le Seigneur nous montre exactement « Voilà ton problème. » À l'étape suivante, ça ne peut être que la repentance. Si nous voulons vraiment rebénéficier de la grâce, de la bénédiction de Dieu dans notre vie et d'être renouvelés en nous confiant en l'Éternel, on ne peut pas échapper à cette case de la repentance. Parce que Dieu peut guérir tout cœur. Lui seul est capable de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair, n'est-ce pas? De briser cette dureté et de la remplacer par la tendresse. La compassion. Se remplir de la parole de Dieu est également une étape qu'on ne peut pas manquer ou négliger. Lorsque nous prenons le temps de lire la parole, de la méditer, de chercher à la mettre en pratique, sa puissance se révèle, se manifeste dans notre vie. Comment un jeune homme peut-il garder sa voix pure? Eh bien, en se dirigeant d'après ta parole, en vivant d'après la parole de Dieu, en serrant la parole de Dieu dans notre cœur, d'avoir ce lien étroit avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous amener à une meilleure compréhension aussi des choses spirituelles et d'éviter l'endurcissement du cœur. Un cœur tendre et pur nous permet d'être justement béni, d'être utile entre les mains de Dieu. L'image qui me vient à l'esprit, c'est bien souvent nous sommes entêtés. Hein, les ânes ont cette réputation d'être des animaux entêtés. Et pourtant, ce sont des animaux qui ont une grande force, une grande capacité aussi. Hein, et que souvent, hein, les âniers ont du mal à diriger. Mais quand l'âne obéit, le trajet se déroule bien. Quand l'âne accomplit la volonté de celui qui est son maître, les choses se déroulent bien. Et donc pour nous, nous devons être résolus à suivre l'exemple de Christ et son enseignement. Être conscient, oui, des besoins physiques des personnes autour de nous, c'est extrêmement important. Mais on ne peut pas négliger le besoin spirituel en même temps. Christ, qu'il a vu d'abord avec cette foule, c'était quoi? Des brebis perdues. Ah oui, certes, après, il faut les nourrir, ils ont faim, ils ont soif, etc. Mais ce que Christ a d'abord vu, c'était leurs besoins spirituels. Les besoins seront toujours immenses autour de nous, c'est vrai. Il y aura toujours de quoi œuvrer pour le Seigneur autour de nous. Ça ne doit pas nous empêcher de prendre soin aussi de nous-mêmes, de prendre le repos nécessaire. Le Seigneur nous a donné ce schéma même lorsqu'il a créé le monde. Le septième jour, il se reposa, c'est un jour où on ne fait rien. Et on a gardé cette habitude, plus ou moins même encore dans notre société aujourd'hui, même si maintenant il y a des gens qui travaillent tous les jours. Mais on doit prendre ce temps. Mais notez bien que quand Jésus dit à ses disciples, on va se reposer, vous avez besoin de vous reposer, mais il dit un peu. C'est là aussi il faut faire attention. Beaucoup tombent dans le piège de dire ah, je suis tellement fatigué, et puis on prend du temps de repos, et puis un peu plus de temps de repos, et puis un peu plus encore de temps de repos, et finalement on devient encore moins efficace presque qu'auparavant. Mais voilà, lorsque nous avons des gens autour de nous qui manifestent un désir concret, cette soif spirituelle aura toujours précédence sur mes besoins. Mes besoins, je ne peux pas les négliger, mais voilà, les besoins spirituels auront toujours précédence. Quand j'étais enfant, ouais, ça m'énervait de rester aussi longtemps à l'église. En tant qu'adulte, je comprends les raisons qui ont amené mon père à rester plus longtemps à discuter avec des frères et des sœurs qui en avaient besoin. Christ a toujours été animé de compassion, mais il avait toujours une priorité. La priorité, c'était que les gens puissent être réveillés spirituellement, avoir la vie spirituelle en lui. Il cherchait constamment à enseigner ses disciples, à les amener à une compréhension plus grande de qui il est et de ce qu'ils sont, de ce que Dieu est capable de faire à travers leur vie. Et quand il les a obligés donc à monter dans cette barque et après les avoir sortis de cette situation fâcheuse, de cette tempête, eh bien le Seigneur va encore prendre le temps de les enseigner et de les amener toujours plus à une compréhension plus grande de qui il est. Mais voilà, Jésus les a obligés. Ça nous amène aussi à devoir comprendre que quand nous avons un cœur endurci, nous devons accepter que le Seigneur nous oblige à passer par des épreuves pour pouvoir remplacer ce cœur endurci par un cœur tendre. C'est le soir, les disciples sont fatigués et Jésus les envoie sur cette barque et se retrouve en plein milieu d'une tempête. Je crois que plusieurs d'entre nous, on a déjà eu de ces jours où on a dit ça, c'était vraiment une journée, mais alors complètement pourrie. Parce que il y a eu ça, et puis il y a eu ça, et il y a eu ça, et encore ça, et je n'en peux plus. Alors imaginez ces journées que vous avez eues, et en plus de cela, eh bien le Seigneur vous oblige à passer par une épreuve encore plus grande. Mais pourquoi? Pourquoi le fait-il? Parce que la même compassion qu'il a eue pour cette foule, il l'avait pour ses disciples. Cet amour qu'il avait pour cette foule, il l'avait pour ses disciples. Et Christ les a mis vraiment dans cette situation périlleuse pour qu'ils puissent faire face, oui, à l'impossible pour eux et de pouvoir voir en lui la solution, de voir en lui celui qui, non seulement il pourvoit, mais il sauve. De voir Jésus comme, oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Mais attention, ces choses que nous savons, que nous avons apprises, que nous avons lues dans les Écritures, il faut se les rappeler. On a besoin constamment de nous rappeler de ces enseignements-là. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, quelques chapitres plus loin, les disciples sont de nouveau dans une situation similaire. Comment est-ce qu'on va nourrir cette foule? Vous n'avez toujours pas appris. Vous avez oublié les 12 paniers. Combien de fois est-ce que nous avons agi de manière pareille envers le Seigneur? Où il a déjà agi dans notre vie, et puis on arrive à des moments d'épreuve, mais comment on va faire? Et le Seigneur, il nous dit, mais comment est-ce que tu as déjà oublié? Voilà pourquoi c'est si important pour nous de compter les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi c'est si important pour nous de nous remémorer ce que Dieu a déjà accompli pour nous, parce que c'est ça qui va nous nourrir face à ces moments de difficulté et d'épreuve, et on va se dire, hey, le Seigneur, il a déjà prouvé dans le passé pour ça. Ça, je fais confiance au Seigneur. Donc, assurons-nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, bien d'avoir un cœur qui reste tendre. Un cœur qui reste, dans la même lignée que celui de Christ. Un cœur qui, oui, nous aimons Dieu, nous aimons le Seigneur. Et nous devons nous aimer les uns les autres, aimer notre prochain et le montrer de manière concrète. Parfois, ce sera des moments difficiles, ce sera des moments aussi de sacrifice pour nous. Mais quand on a laissé Dieu agir dans notre vie et par notre vie, et qu'on a vu ce qu'il est capable de faire en nous et par nous, eh bien, ça nous aide à ne pas avoir ce cœur endurci et de nous appuyer davantage sur le Seigneur, ne plus nous appuyer sur nos propres forces, nos propres capacités à pouvoir accomplir les choses. Voilà ce que, pour moi, j'ai pu tirer juste, et je sais que c'est beaucoup de versets, souvent on va faire un message sur particulièrement juste une de ces choses, mais tout était lié ici. Tout était lié. Le fait que même le Seigneur ne soit pas accepté dans sa propre patrie, qu'il envoie ses disciples, et on ne sait pas pendant combien de temps ils étaient partis, ça pouvait être quelques semaines, peut-être quelques mois, on ne sait pas, mais quand ils reviennent, ouais, il y a cet enthousiasme, cette force, mais on peut imaginer que ça a été quand même fatigant et éreintant. Ils essaient de passer ce moment calme avec le Seigneur, mais ils sont constamment embêtés, perturbés par les gens qui sont là, qui passent. Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Oh, allez, on va aller ailleurs. Et puis la foule qui suit. Oh. On peut comprendre, on peut s'identifier aussi aux disciples dans ce qu'ils vivent à ce moment-là. Mais voilà la différence. Ils auraient pu avoir un cœur ému de compassion comme le Seigneur. Ils ont choisi d'avoir un cœur endurci. Et nous aussi, nous faisons face à ces choix assez fréquemment. Je fais face à ces choix fréquemment. Ah, il y a des moments où je dis, encore. Et on doit veiller sur soi-même. On doit veiller à garder un cœur tendre. Parce que quand nous avons un cœur tendre, c'est là où nous pouvons vraiment exemplifier Christ le mieux dans notre vie. Alors je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que à l'heure actuelle, j'ai un cœur endurci, endurci par mon orgueil, endurci peut-être par des difficultés. Ou est-ce que j'ai un cœur qui est, comme celui du Seigneur, tendre, aimant, ému de compassion lorsque nous voyons les gens passer leurs besoins physiques, besoins spirituels? Est-ce que nous sommes animés de cela ou non? Et dans notre remise en question, on ne peut pas juste rester dans cette situation en se disant « Oui, je suis endurci » et ne rien faire à ce sujet. Ce serait tellement triste. Parce que le Seigneur ne veut pas voir ce cœur endurci en nous. Il veut transformer ce cœur de pierre. Et il veut nous employer pour son œuvre, pour aider les personnes autour de nous à voir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si on a un cœur endurci, ça ne va pas être possible. Ils ne vont pas le voir. Si nous avons un cœur tendre, aimant, ému de compassion, les gens le verront. Et nous pourrons leur dire, ça, c'est uniquement Christ. C'est pas moi. C'est pas parce que j'ai tel type de caractère. Non. C'est parce que c'est Christ. Prions.